D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzy. La littérature et l'art en général ont des rapports ambigus avec le téléphone. Puisqu'aussi bien, le téléphone n'est pas de la littérature ni de l'art, et que ni l'art ni la littérature ne sont du téléphone. Le téléphone, c'est de la communication. L'art et la littérature sont plutôt de la communion. Littérature et art, transformation et transfiguration, téléphone, brut. Le téléphone est du tel quel, la littérature est du tel quel, mais plutôt celui de Paul Valéry. Pour commencer, la littérature ne parle pas, elle écrit. La forme des phrases prononcées spontanément, sans même parler des scories, des hésitations et des répétitions, n'est pas celle, travaillée, condensée et symbolique, de la littérature. Rien ne ressemble moins à un dialogue de théâtre qu'un dialogue de la vie matérielle. La littérature, c'est un écrivain dictatorial. Elle appelle peut-être les gens, sous la forme de livres qu'elle espère voir ouvrir, mais elle n'attend pas de réponse, elle n'est pas un dialogue. Un écrivain dit et écoute qui veut. De ce point de vue-là, une œuvre de littérature s'apparente assez à un caillou. Un caillou reste indifférent à ce qu'il suscite. Qui a dit que la littérature était sociable ? Elle peut avoir le ton de la conversation, comme disons chez Voltaire ou Stendhal, mais n'oublions pas que la conversation n'est pas non plus du dialogue. Une conversation est menée seule par ce qu'on appelle parfois un brillant causeur. Il n'est jamais aussi bon que face à un public muet. L'emploi du téléphone par la littérature n'a pas vraiment engendré d'œuvre majeure. Au mieux, elle a donné des mélodrames, et comme tel parfois au bord du chantage sentimental, à l'image de la voix humaine de Cocteau et du coup de téléphone de Dorothy Parker, ou bien des fantaisies charmantes et un peu anodines, comme la scène de l'amant qui téléphone à sa maîtresse dans « Le faisons un rêve » de Sacha Guitry. Le téléphone est un « instrument ». Tout faire dépendre de lui, c'est un peu comme si Shakespeare avait expliqué le comportement de Hamlet à partir de son épée empoisonnée. Si on me permet de me citer, j'ai publié une nouvelle dont le personnage principal est allongé sur un canapé. Il reçoit des messages sur son téléphone et ne répond pas. On découvre à la fin qu'il est mort. Je crois bien que je voulais montrer par là tout ce que je viens d'exposer. Et tout cela fait que la grande singularité du téléphone, qui réside dans la simplicité de l'appel et de la réponse, a été mal explorée. Quelqu'un vient de tenter de réparer cela par un livre qui vient de paraître. Quel est le secret professionnel de l'appel et de la réponse téléphonique ? Je reçois pour en parler Frédéric Tourloir sur la pierre, professeur de littérature comparée à l'université de Mulhouse, qui publie aux éditions de Minuit « Téléphonez-moi, la revanche d'écho ». Frédéric Tourloir sur la pierre, on parle de coups de téléphone. Marcel Proust a tenté le mot « téléphonage » mais qui n'a pas pris. Sait-on qui a inventé l'expression ?
Coup de téléphone, non, je ne sais pas exactement. Là, vous me posez la première question, c'est une colle. Donc, mais non, je ne sais pas exactement d'où vient cette expression. Enfin, de toute façon, qui est là, qui est une expression qui fonctionne en français. Je suis pas sûre que dans les autres langues, ça marcherait. En tout cas, qu'il laisse entendre qu'il y a une dimension peut-être agressive ou en
voilà,
tout cas,
exactement.
Mais enfin, en tout cas,
ou la
le téléphone.
Qu'il y a une agression.
Oui, et puis l'idée que le téléphone possède un effet, en fait, immédiat d'ailleurs, c'est sa propriété.
On connaît, rapporté par les Goncourt dans leur journal, l'expression du caricaturiste Forain qui entend pour la première fois une sonnerie chez les Goncourt, et il dit « c'est donc ça le téléphone, on vous sonne et vous répondez ». Et c'est un mot d'esprit, mais c'est important aussi parce que la sonnerie à l'époque était réservée aux domestiques, on les sonnait dans leur cuisine ou à l'office.
Oui, et puis c'est, il me semble que c'est encore, c'est également révélateur de ce qu'est le téléphone. Effectivement, il vous sonne, en fait, il y a une injonction dans le téléphone, il y a un ordre qui est donné, auquel on peut ou ne pas obéir, en fait, mais qui dit quand même qu'il y a quelque chose d'impératif dans le téléphone. Alors, c'est le titre de l'essai, j'avais mis « Téléphonez-moi » aussi, en fait, j'utilisais ce jeu sur l'impératif. Mais en même temps, Louis Marin, je trouve, justement, montre bien, à la fois, c'est justement le pouvoir de cette sonnerie. Il montre bien que le premier enjeu du téléphone, c'est d'emblée de sa sonnerie. Et le fait que je réponde ou non, justement, va prouver, va me permettre de donner à l'autre l'accession au statut de sujet. Autrement dit bien, je trouve le pouvoir du téléphone rien que dans le fait de sonner et de répondre. Au-delà même de toute la conversation que peut engager le téléphone.
C'est-à-dire, vous pensez que d'emblée, le téléphone se situe dans des termes de pouvoir.
Je pense que oui, je pense que le téléphone a du pouvoir. D'ailleurs, on ne serait pas si attaché au téléphone, ce que le téléphone portable montre. C'est notre aliénation, affection ou addiction en tout cas au téléphone, et qui dit bien, à mon avis, que le téléphone a des pouvoirs. Et c'est la complexité d'ailleurs, c'est d'analyser. Il me semble qu'il a un pouvoir affectif, mais il a aussi un pouvoir idéologique. Il a un pouvoir psychanalytique. Donc il joue sur différentes cordes et facettes, et c'est ça qui le rend complexe. Vous avez parlé des rapports ambivalents qu'il entretenait à l'art, mais aussi à peut-être, on pourrait dire, avec nous comme sujet. Il me semble que voilà, c'est cette complexité d'ailleurs qui le rend passionnant.
Quand on répond au téléphone, on utilise une interjection, là pour le coup probablement assez universelle, qui est « allô ». Est-ce que là on sait ou pas du tout d'où ça vient ?
Oui, là « allô » provient de l'anglais « hello » qui est attesté dès 1846. Donc on notera qu'on a utilisé un mot qui existait avant la mention du téléphone, qui date de 1876. Je trouve donc qui dit aussi, finalement on pourrait dire, c'est le premier mot de la conversation, c'est le premier mot de la connexion avec l'autre. On pourrait dire que c'est un terme de bienvenue, et il me paraît aussi révélateur que ce soit un terme de la sociabilité. On pourrait dire le premier mot de la sociabilité, c'est ce terme d'allô.
Cet allô, c'est une forme de crochet pour permettre au dialogue de s'enclencher ? Une espèce d'hameçon comme ça ?
Oui, c'est ce que considère Louis Marin. C'est, pour lui, c'est vraiment ce moment où je fais accéder l'autre au statut de sujet. C'est un moment décisif, en fait. Donc, effectivement, c'est le premier terme. Et moi, il me semble, en fait, que les conversations où on n'a pas... Il fonctionne aussi comme un rituel, on pourrait dire, une formule de passage, en fait, qui me permet peut-être de passer d'un monde à l'autre, en fait, peut-être du monde inaudible au monde sonore. Peut-être que c'est aussi ça qui se joue dans cet halo, mais effectivement, c'est un terme important, symboliquement important, en fait, dérisoire dans son apparence, mais important symboliquement.
Nous parlions juste avant de la sonnerie avec son principe quasi d'agressivité, mais en même temps, en tant qu'il y a une sonnerie, il y a moins de surprises puisqu'elle s'annonce. Ça veut dire que la conversation s'annonce. C'est pas comme si on avait un objet et qu'immédiatement quelqu'un parlait. Donc il y a une espèce de médiation là qui se passe.
La sonnerie, quand même, a quelque chose de paradoxal. Enfin, dans la mesure, d'ailleurs, elle se répète comme s'il fallait... parce qu'il faut laisser le temps de répondre, mais qui laisse entendre que, dans le fond, il faut aussi peut-être se préparer à décrocher le téléphone, que ce n'est pas un acte si simple, qui a l'air évidemment simple en apparence, mais qui n'est pas si simple. D'ailleurs, des fois, on se pose la question, est-ce que je décroche et je ne décroche pas ? Ça montre bien que ce n'est pas un acte si simple. Moi, il me semble que la sonnerie de téléphone, quand même, possède quelque chose d'impérieux. Donc, et d'ailleurs, on cherche son téléphone qui sonne, on veut répondre à tout prix, on a quelques sonneries à son actif. Et d'ailleurs, le fait que, par exemple, le cinéaste Wes Craven utilise dans Scream le principe de sonnerie du téléphone comme à la fois comme son emblématique de son film, comme générique, montre bien ici, je trouve, alors il l'utilise, il le dramatise, il s'en sert comme un signe terrorisant, mais fonctionne bien, je trouve. Et aussi, ça montre bien à quel point cette sonnerie fonctionne aussi comme sur un principe pavlovien, en fait. On sait ce qui s'annonce, en fait. On ne sait pas forcément qui s'annonce, mais on sait ce qui s'annonce.
Ce qui me frappe, c'est comme tous les objets de consommation de masse, comme la télévision, le téléphone est laid. On peut, pour le dire succinctement, il est laid. On ne prend pas la peine de rendre beau les objets de masse, puisqu'ils sont de masse et qu'ils seront de toute façon consommés. Et pourtant, même laid, le téléphone est un objet qui a été un symbole d'embourgeoisement.
Oui, c'est vrai que c'est étonnant aussi de se demander pourquoi, par exemple, moi j'ai été frappée de ça, pourquoi par exemple Proust en parle si vite, alors qu'on pourrait se dire qu'objectivement, dans le monde qu'il décrit, l'objet téléphonique n'a pas sa place, d'autant plus qu'effectivement il est laid. Alors ce qui est intéressant, il n'a pas été esthétiquement conçu, enfin on va dire, pour répondre à cette fin de 19e siècle. Il semble qu'effectivement il y a une disjonction entre l'objet en fait et l'époque à laquelle il apparaît. Il me semble aussi quand même que la façon justement dont les artistes du pop art, dont je pense à Andy Warhol, je pense à Dali aussi, avec son téléphone Omar, vont s'emparer du téléphone comme objet justement. Et ce qui est intéressant avec Dali, avec son téléphone Omar, c'est qu'il s'en empare comme un objet à regarder. Donc il utilise le socle et puis il change le combiné, il met un Omar dessus. Mais je trouve intéressant de se dire que quand même là, il fait une forme de provocation et il va esthétiser quand même, il esthétise cet objet. Et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais il me semble que l'évolution du téléphone va vers cette esthétisation du téléphone.
Vous trouvez que les téléphones portables sont plus beaux que les téléphones, les combinés, comme on disait ?
Je ne trouve pas qu'ils sont plus beaux, mais je trouve qu'en termes de design, on voit qu'il y a un travail formel et esthétique qui a été fait très clairement. La façon, alors, il me semble que ce n'est pas tellement dans l'apparence du téléphone, mais davantage dans ses fonctionnalités. On voit très, très clairement que les différentes applications ont clairement été esthétisées. Alors sur des critères, on pourrait dire d'une culture de masse, probablement.
Enfant, pour moi, je n'avais pas le droit de téléphoner à ma guise. Il fallait demander la permission parce qu'il y avait deux fonctions dans le téléphone, une fonction en quelque sorte professionnelle et personnelle, et on considérait que c'était encore quelque chose de professionnel et un peu vulgaire de mêler le professionnel au privé. Et dans les familles un peu rigoristes comme la mienne, tout le reste était considéré comme du motif de ragotage.
C'est vrai que le téléphone fixe, ce que nous avons connu, mêle deux propriétés en fait. À la fois, il est collectif, hein, il est à usage familial collectif, autrement dit, il est à tout le monde. Et du coup, il y a une forme de hiérarchie évidemment qui va s'établir parce que les membres de la famille ne sont pas tous identiques. Et une deuxième chose, c'est qu'il fonctionne sur une double modalité publique-privée effectivement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à la fois le téléphone est dans la sphère domestique et qu'il est ressenti comme un usage professionnel.
Comme une intrusion du professionnel dans le privé.
Oui, c'est ce que raconte une anecdote que raconte Marshall McLuhan, que j'aime bien en fait. Il raconte qu'un entrepreneur américain expliquait qu'il appelait ses employés la nuit en fait pour les terroriser. Ça dit tout de suite quand même à quel point d'abord c'est un objet de pouvoir, on voit quand même, et d'abus de pouvoir. Une façon pour l'employeur d'étendre son pouvoir jusque dans la sphère privée de ses employés, et ce qui montre bien aussi à quoi sert le téléphone. Enfin, c'est quand même un des enjeux du téléphone, c'est vraiment de nous pister jusque chez nous.
Une fois qu'on a décroché, on a dit cet allô, on a soi-même parlé, on entend une voix. Est-ce que vous savez si les voix sont exactement dans le téléphone retransmises telles que nous les avons dans la vie, ou est-ce que l'objet, si peu que ce soit, la transforme ? Est-ce qu'on sait ça ?
Il y a forcément une transformation d'abord analogique et ensuite numérique. Il y a forcément une transformation. C'est aussi ce qui explique Merleau-Ponty. Il dit je ne m'entends pas comme j'entends les autres. Hein. Donc la voix, c'est ce qui sort de moi, mais ce qui est le plus étranger à soi. Et le téléphone emblématise cette transformation. Oui, il y a une déformation du téléphone, mais en même temps, on le sait théoriquement. Donc ça, c'est, on va dire, c'est fonctionnel, technique. En même temps, on n'a pas fait l'expérience de parler, de s'écouter à la fois. Ou alors, il faudrait s'enregistrer sur le répondeur et écouter sa propre voix, ce qu'on peut faire. Mais effectivement, cette expérience de se parler et de s'écouter, de se parler à soi-même au téléphone. D'ailleurs, c'est intéressant de se dire que finalement, tiens, c'est encore quelque chose que le téléphone n'a pas investi.
C'est curieux parce que ça engage le rapport au naturel ou pas. On a l'impression que le fonctionnement, maintenant, ça fait des années et des années qu'on utilise le téléphone et que donc c'est naturel. Mais au fond, c'est pas si naturel. Et d'ailleurs, il y a des gens qui restent phobiques du téléphone.
C'est parce que le téléphone est immédiat. Mais immédiat ne veut pas dire spontané, par exemple. Il y a vraiment là probablement une différence. Et le téléphone, c'est un rapport avec l'autre. Tout rapport à l'autre est médiatisé. Alors là, le téléphone l'emblématise, le dit clairement. Mais tout rapport à l'autre, me semble-t-il, il n'existe pas de rapport naturel à l'autre. C'est-à-dire je ne suis pas avec l'autre comme je suis quand je suis seule, hein, c'est une propre... Et Proust imagine cette toile en fait d'une femme au téléphone et qui sourit parce qu'en fait elle sait qu'elle n'est pas vue en fait. Alors ce que je trouve intéressant avec la voix au téléphone, c'est que justement elle joue sur ses propriétés très ambivalentes quand même, corporelle ambivalente, c'est-à-dire que la voix, c'est ce qui est invisible et intouchable, ce qui pourrait être deux propriétés du corps qui contredisent le corps. Et donc évidemment, c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a cet écart en fait entre, mais qu'on a aussi par exemple à la radio, la voix qu'on entend. Souvent, il y a une différence en fait entre la voix qu'on entend et celle qu'on voit.
Bien sûr, sauf que je pense que la tonalité de votre voix fait que les gens imagineront très bien que ce qui se passe, vous êtes en train de me sourire en parlant. Donc le sourire s'entend, ça n'est pas non plus, le corps n'est pas complètement absent de la voix.
Il n'est pas complètement absent, effectivement, et d'ailleurs le corps, la voix, en mon sens, fonctionne sur un principe métonymique, c'est-à-dire j'ai besoin... je postule, et d'ailleurs j'ai raison, que s'il y a une voix, il y a un corps. Et donc je complète par mon imaginaire ce que j'entends par la voix. Mais d'ailleurs, il me semble que c'est une des propriétés du téléphone, hein, sa puissance imaginative. Hein, c'est ce qu'Aragon pressent tout de suite, c'est que le téléphone a un pouvoir d'imagination. Mais il me semble quand même qu'on se tromperait si on devait reproduire un visage rien qu'à une voix au téléphone. Et heureusement, d'une certaine manière, c'est-à-dire que sinon ça voudrait dire que le téléphone remplace tout, en fait, là, que sa fonction de substitution fonctionnerait totalement. Et elle est probablement, heureusement, incomplète.
Alors, dans répondre au téléphone aussi, il y a la question très vaste de la sociabilité. Et une chose à changer avec le téléphone portable, c'est la façon que nous avons ou non de répondre dans les lieux publics en présence d'autres personnes, ce qui est considéré, à mon avis, à juste titre, comme très offensant, parce que ça veut dire qu'il y a la suppression totale d'autrui autour de soi entre mon ego et l'ego qui me parle et qui me renvoie mon ego à moi.
Oui, c'est là qu'on voit le rôle que joue le téléphone comme facteur de sociabilité. C'est vrai que j'ai essayé de montrer que le téléphone nous permettait de nous construire une fiction sociable, et on pourrait se demander dans quelle mesure, quand je parle au téléphone dans un lieu public, donc où d'autres personnes sont présentes, dans le fond, c'est évident, je parle au moins autant pour les gens qui sont autour de moi que pour celui qui est à l'autre bout. Et d'ailleurs, l'expression la plus claire de cela, c'est que souvent, celui qui est autour de moi m'entend beaucoup mieux que celui qui est à l'autre bout du téléphone. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, quand même, c'est aussi des usages culturels et sociaux. C'est-à-dire que selon les pays, en Italie, on fait un usage massif du téléphone dans les lieux publics, qui semble poser moins de questions. Et c'est vrai que dans nos pays, et plus on monte vers le nord, là, on a un usage plus discret du téléphone, qui montre vraiment que le téléphone aussi s'inscrit dans des usages sociaux plus généraux.
Nous allons maintenant entendre une chanson sur le téléphone. Elle est de Lucio Dalla et il chante Telefono tra vent'anni. Elle date de 1981.
Telefono tra vent'anni. Io adesso non so cosa dirti. Ah, non so rispondere. Non ho voglia di capirti. Au! Invece pensami, tra vent'anni pensami. Io con la barba più bianca e una valigia in mano, con la bici da corsa e gli occhiali da sole, fermo in un qualsiasi posto del mondo, chissà dove, tra miliardi e miliardi di persone, a bocca aperta senza parole, nel vedere una mongolfiera che si alza piano piano e cancella dalla memoria tutto quanto il passato, anche le linee della mano, mentre dall'alto un suono. Ah, io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione.
Frédéric Tournoir sur la pierre, passer un coup de téléphone quand on est dans un lieu contrôlé comme en famille ou à son travail me semble le contraire même de l'agressivité qui consiste à recevoir un coup de téléphone. Ça peut même être une libération. On peut se libérer d'un milieu en passant un coup de téléphone, non ?
Oui, c'est la possibilité d'introduire un autre espace. En fait, le propre du téléphone, c'est son ubiquité. Donc, ça permet d'être ici et ailleurs. Effectivement, on peut s'échapper. Le téléphone fonctionne comme une forme d'échapper par rapport à l'espace dans lequel on est.
Dans votre livre, vous dites « Celui qui appelle manifeste un désir de changement ».
Ce que je trouve beau, en fait, émouvant dans le téléphone, c'est que si j'appelle quelqu'un, je lui manifeste clairement mon désir de l'entendre. Là, il y a quand même un moment, je trouve, dans l'existence où là, on dit clairement, alors ça peut être là, il faudrait interroger la nature du désir, mais il y a un moment où je dis à quelqu'un, j'ai envie de te parler et j'ai envie de te parler à toi, en fait. Il me semble que là, il y a quelque chose dans l'appel téléphonique que je trouve assez beau, en fait.
Et l'outrance de ce que vous venez de dire, en quelque sorte, c'est-à-dire que l'appel téléphonique est une espèce d'appel à l'amour, peut aller aussi vers la sexualité. Il y a une chose très, très, très intéressante dans les coups de téléphone purement sexuels, et c'est là qu'il me semble que la littérature s'approche le plus, parce qu'il y a là des gens qui jouent des rôles. Ils se font passer pour une autre personne que ceux qui sont. Ils jouent une forme de comédie à but sexuel.
Le téléphone, on a connu les usages du téléphone, ce qu'on appelle le téléphone rose, en fait. Enfin, en français, on appelle ça le téléphone rose, mais qui a un usage fort, fort intéressant du téléphone. Alors ici, le téléphone se présente comme ce que j'ai repris l'expression de Deleuze et Guattari, de machine désirante. Ouais, bien, donc toute la sensualité, l'érotisme, voire la sexualité qui est inhérente au téléphone et que le téléphone rose a, on va dire, capitalisé, où on a fait un enjeu économique. Et d'ailleurs, c'est ce que préconise Deleuze et Guattari, que, enfin, leur idée, c'est que la machine désirante est là pour faire dysfonctionner le système capitaliste. Et cette idée me paraissait intéressante, parce que justement, en étudiant le rôle du téléphone quand il a une vertu comme ça, ou une fonction clairement érotisante, il me semblait que précisément là, on retrouvait un des enjeux de la littérature, qui est de faire dysfonctionner, on pourrait dire, le système. Il me semble que c'est un des rôles de la littérature, d'interroger, de déranger. Là, le téléphone rejoint un des enjeux, effectivement, de la littérature et l'art, ce qui dit aussi que le téléphone n'est pas simplement un objet, mais un pouvoir de sublimation, d'idéalisation, à mon avis, de symbolisation. Et c'est ça qui l'apparente pour moi aussi à la littérature et à l'art.
Est-ce que vous n'exagérez pas un peu en parlant sans arrêt de pouvoir ? C'est un mot, vous avez évidemment tout à fait le droit de l'employer, mais vous l'employez beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous n'attribuez pas à une machine plutôt des possibilités que nous lui donnons, un pouvoir qu'elle n'a pas? Une machine n'est jamais qu'une machine.
Il me semble quand même que la machine en elle-même a du pouvoir. Elle a des potentialités qui s'apparentent clairement à la notion de pouvoir. Si vous réfléchissez, le téléphone met en évidence, on va dire, des rapports de force entre les êtres, des rapports de domination. Enfin, peut-être qu'il faudrait minorer ce terme, mais en tout cas, moi, il me semble vraiment que ce n'est pas un objet anodin, et qu'il a effectivement, à mon sens, du pouvoir effectivement sur nous. Je veux dire, on l'utilise et on investit, nous, notre propre pouvoir, ce que nous sommes en tant qu'être humain. Mais il me semble que dans ses fonctionnalités, il en a également.
Tout ça a été très symbolisé, vous le dites dans votre livre, par les films d'horreur en particulier. Enfin, on a tous en tête le film où les enfants dans la maison, la baby-sitter reçoit un coup de fil et qui vient de l'intérieur même de la maison, d'où le système de terreur se met en place.
Oui, d'ailleurs, l'expression de dispositif de terreur, enfin, au sens de Foucault, fonctionne, vous en serez d'accord avec moi. Et d'ailleurs, pour Foucault, un dispositif de terreur, pour lui, renvoie à ce qu'il appelle un processus de domination. Il y a quelque chose dans le téléphone qui, au-delà de son usage, produit un dysfonctionnement, un déséquilibre. Ce qui est intéressant dans le téléphone, c'est que c'est un objet apparemment de la symétrie et de l'interchangeabilité. Je parle à l'autre, je me parle, je peux appeler, je peux appeler et être appelé. Et en même temps, il y a un déséquilibre constant dans cette apparente symétrie.
Est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis que là où le téléphone est le plus fort, c'est, pour rester dans votre vocabulaire, dans son absence de pouvoir? Je veux dire par là que le téléphone est un aveugle, en quelque sorte. Le téléphone ne nous donne pas à voir et ne voit pas. Or, il me semble que c'est précisément dans son aveuglement et son absence de capacité de donner à voir qu'il nous la donne à nous, parce que c'est un excitant à l'imagination.
La présence du téléphone, c'est son absence. Enfin, en tout cas, l'absence de l'autre. Le téléphone nous rend significatif et nous explicite le fait que l'autre est absent et que je veux pallier cette absence. Mais c'est pas simplement que l'autre est absent, il y a plein d'autres absents. Mais là, je veux pallier cette absence-là.
Mais c'est une fausse absence, en réalité. Puisque l'autre est là. Il n'est pas prêt, mais il est là.
Enfin, ça dépend en quelle absence. Mais
il y a une distance.
Oui, corporellement, il n'est pas là. Et là, vous pouvez faire toutes les cabrioles de la Terre, sauf s'il est dans la pièce à côté. Maintenant, c'est un autre jeu. Mais là, il n'est pas là. Il me semble que quand même, effectivement, c'est avec cette absence-là, parce qu'en même temps, s'il n'y a pas absence, il n'y a pas besoin de téléphoner. Donc, c'est vraiment celle-là, cette absence-là, me semble-t-il, dans ce corporel. Et ce qui me paraît intéressant, c'est justement que le téléphone ne soit pas visuel. Alors, on a doté le téléphone portable de propriétés visuelles. On peut voir avec le téléphone, on peut envoyer des selfies, mais on peut se téléphoner et se voir en même temps. Mais effectivement, ce qui me paraît intéressant, c'est que le téléphone a été inventé pour fonctionner contre la vidéo. Il me semble vraiment que c'est le pouvoir de l'audio contre la vidéo qui se joue. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on ne s'en est pas méfié. Parce qu'en fait, les sociétés ont plutôt postulé sur le pouvoir de la vidéo, alors même que finalement, c'est l'audio ici qui l'emporte.
Oui, on se méfie beaucoup plus de l'œil que de l'oreille en général.
Oui, c'est un organe qui est peut-être moins esthétique. D'ailleurs, on pourrait dire l'oreille, peut-être que l'œil. Donc, c'est effectivement ce à quoi renvoie le téléphone. Et on ne peut pas s'empêcher de se dire que le père de Graham Bell, inventeur du téléphone, avait travaillé. Justement, il voulait inventer une machine pour pallier finalement contre la surdité.
Donc, une nouveauté, Frédéric Tournoir sur la pierre, et pour finir, c'est que le téléphone écrit. C'est-à-dire, vous avez cité la vidéo à l'instant, et depuis quelques années, nous avons sur les portables les SMS, Twitter, tout ce qu'on sait. Et en ce moment, nous avons un exemple, alors là, pour aller tout à fait dans votre sens de pouvoir, qui est l'agressivité permanente des tweets de Trump, qui est un système de harcèlement, à mon avis, tout à fait calculé, de déstabilisation du monde, comme on peut déstabiliser des gens par des phénomènes de peur. Et d'ailleurs, tout début février, il a même utilisé le téléphone pour injurier un allié de l'Amérique qui était le Premier ministre d'Australie. Donc tout d'un coup, que fait ce téléphone qui écrit ?
Parce que le téléphone, ça s'accapare d'autres propriétés. En fait, les médias ont des relations les uns par rapport aux autres. Et en fait, ils ont des relations de concurrence et d'hybridation. Et effectivement, le téléphone, lui, montre une capacité à la fois d'hybridation et il concurrence les autres médias. C'est ce qui fait qu'il s'est accaparé la vidéo et d'autres modalités. Et donc, effectivement, il me semble que dans cette logique, il est cohérent qu'il se soit accaparé la lecture et l'écriture. C'est-à-dire on écrit beaucoup sur son téléphone par le biais de SMS, par le biais de tweets, alors qui semble quand même différent, me semble-t-il. Le SMS, enfin, c'est une conversation individuelle que vous avez, donc une sorte de dialogisme qu'on inventerait à l'écrit, en fait, une sorte de dialogisme mimétique hérité des bulles, des bandes dessinées, alors que le tweet, il me semble-t-il, que c'est une voix, une parole pour tout le monde, en fait. Il y a une sorte de... Peut-être que ça s'apparenterait davantage à la radio si on réfléchissait, qu'il y a aussi un médium qui fonctionne d'une certaine manière comme le téléphone, sauf que la radio, il y a un enjeu collectif dans la radio, alors que dans le téléphone, je parle à un et un me répond. C'est le principe préliminaire du téléphone. Mais il me semble que ça dit l'évolution du téléphone, sa capacité à englober d'autres médias, et que sont ici la lecture et l'écriture, et sa capacité de mutation, et quand même qui dit aussi sa grande plasticité. En fait, il est capable d'un... Donc, ce qui pour moi aussi confirme le fait qu'on écrit... En fait, par exemple, Trump utilise ça, il a compris aussi le principe. Un des enjeux du téléphone, c'est sa propriété rhizomatique. Structurellement, les câbles téléphoniques, en fait, fonctionnent comme des rhizomes, en fait, et il utilise ça, alors de manière agressive, mais de manière, on pourrait dire, très futée.
Frédéric Tournoir sur la pierre, les téléphones sont écoutés, et pas seulement par celui qui reçoit le coup de téléphone, c'est écouté par des tiers, par la police, par des forces gouvernementales. Est-ce que le secret professionnel de donner et de recevoir des coups de téléphone n'est-il pas désormais qu'il ne faut plus mettre aucun espoir dans l'intimité ?
Il doit y avoir encore des espaces non surveillés, des espaces téléphoniques non surveillés, non écoutés. Il faudrait y réfléchir, mais c'est vrai que ça laisse quand même rêveur, parce qu'en fait, on se dit finalement, alors à la fois, toutes nos conversations sont écoutées, en même temps, on pourrait dire finalement, ça a que peu d'intérêt bien souvent, et ça n'en a même aucun, mais c'est tout cet imaginaire, c'est aussi ce que ça dit de l'état de notre société, c'est vraiment tout un imaginaire de la surveillance, et aussi ça dit que nous avons besoin de penser que nous sommes sur écoute, que finalement nous sommes suffisamment, sur un mode paranoïaque, mais nous sommes suffisamment importants et intéressants pour que nous soyons sur écoute.
C'était Secret professionnel, le 248e. La semaine prochaine, je parlerai du secret professionnel des étudiants des Beaux-Arts. Réalisation Clotilde Pivin, attaché d'émission Daphné Abgral, prise de son Bernard Laniel, recherche INA, Aude Vincent. Dans un instant, Joël Gaillot, une saison au théâtre.